Dans le Dvar Malchut sur la Parasha Pinchas, il est question du partage de la terre d'Israël. L'accession à la terre d'Israël, le jour de la délivrance finale, ce sujet-là, il implique de la part de chaque juif, d'après l'enseignement du Rabbi, de dévoiler la capacité de Messirou Nefesh, la capacité de faire don de nous-mêmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et la qualité de Messirou Nefesh essentielle, c'est celle de Bitul Haratzon, c'est-à-dire d'annuler, de faire abstraction de toutes nos volontés en dehors de la volonté de Dieu, de faire de ce monde matériel une demeure pour son essence, de faire tout ce qui est en notre pouvoir, que ce soit au niveau de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, pour accomplir la volonté de Dieu, de faire de ce monde matériel une demeure pour son essence. Et le partage de la terre d'Israël, le point qui est soulevé par le Rabbi, c'est celui du Goral, puisque le partage s'est fait au moyen du Goral. Alors la question qui est posée par le Rabbi au début du Dvar Malchut, c'est de dire que le Goral lui-même, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est juste le moyen d'accéder à la terre d'Israël, de rentrer en Eretz Israël. Mais c'est cela au moyen d'un Goral. Mais le Goral en lui-même, c'est juste une préparation à l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Et c'est là le point essentiel du Dvar Malchut, c'est de souligner l'importance de chaque préparation. C'est-à-dire qu'un homme, il attend toujours un événement qui est important, il doit accomplir quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel dans sa vie, mais la préparation à ce moment-là est essentielle. C'est-à-dire de considérer chaque moment de l'existence, de considérer le contenu profond de chaque moment de l'existence, et de ne pas privilégier le but, et au contraire de s'attacher vraiment à la préparation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accomplir un but de manière parfaite si on n'a pas accompli de manière parfaite ce qui nous prépare à ce but. Alors c'est à ce sujet que le Rabbi dit, et il déclare dans le Dvar Malchut quelque chose d'intéressant, puisqu'on se rend compte de l'amour du Rabbi pour quelle personne en définitive. L'amour du Rabbi pour son chassid, à partir de quel moment le Rabbi va réellement, véritablement aimer son chassid, c'est si c'est une personne pnimi, une personne profonde. Et donc le Rabbi va expliquer, va détailler, va définir ce que c'est la pnimiut chez un homme, la pnimiut chez un chassid. La profondeur chez un homme, c'est précisément quand cette personne-là, elle va se consacrer de toutes ses forces, elle va consacrer toutes ses pensées, toutes ses paroles et ses actes, elle va se soumettre totalement à la volonté de Dieu à chaque moment de son existence. Elle va considérer chaque moment de son existence au point de vivre chaque moment de manière profonde. Comme on l'a dit, de se préparer à une chose, c'est vivre aussi profondément cette préparation-là. C'est pour ça que le Rabbi, dans le Dvar Malchut, rappelle cette histoire du Rabbi Rachav qui, au moment où il allait réciter un Mahamar, s'est abstenu de dire le Mahamar devant ses chassidim, puisqu'il avait remarqué que les chassidim étaient tellement pressés d'entendre le Mahamar qu'il s'était dépêché à chanter le Nigun qui prépare justement à l'écoute du Mahamar. Et là-dessus, le Rabbi Rachav avait expliqué donc que se préparer au Mahamar est aussi important que d'entendre le Mahamar. C'est par une bonne préparation qu'on peut vraiment recevoir de manière parfaite le Mahamar du Rabbi. Et de la même façon, le Rabbi explique et il rapporte l'histoire de Tzemar Tzedek et de l'un de ses chassides qui désirait se rendre en Eretz Israël, qui est allé voir le Rabbi Rachav, qui lui a demandé, le Tzemar Tzedek, pardon, qui lui a demandé une bracha pour se rendre en Eretz Israël. Et au lieu de lui donner sa bracha, le Tzemar Tzedek lui a répondu, fais ici la terre d'Israël. Fais ici de l'endroit où tu te trouves. Alors on doit comprendre que le mot ici, fait ici, ça désigne l'exil. Ça désigne Routzaharetz. Tous les endroits qui sont en dehors d'Eretz Israël. Toutes les situations qui préparent justement à la délivrance. Même si ces situations-là, ce sont des situations dans un état d'exil, ce sont des situations que l'on vit en dehors d'Eretz Israël, on doit faire de ici la terre d'Israël. Ici, ça représente donc la préparation à une chose. On doit faire Eretz Israël même quand on se prépare à en entrer en Eretz Israël. C'est pour ça que le point qui est de comparaison qui est donné, c'est le Goral. Puisque le Goral, c'est pas seulement le moyen de rentrer en Eretz Israël, c'est une préparation pour entrer en Eretz Israël, puisque on voit que le Goral lui-même, on tirait au sort, Et on écrivait sur des papiers le nom de chaque tribu et le nom de la terre qui lui est attribuée. On tirait au sort, et avant même que le Kohen dise déjà par Ruach HaKodesh le nom de la tribu et la terre qui lui désignait, ensuite, quand on tirait au sort, le papier lui-même parlait. Et il confirmait les paroles du Kohen. Donc on voit que ici même, dans le Goral, il y a l'expression de cette soumission totale par rapport à Dieu, au moyen de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Puisque le Goral, quand on écrit un mot, quand on écrit le nom d'une tribu, ou on écrit le nom de la terre qui lui est désignée sur un morceau de papier, alors intervient la marshava, la pensée. Puis il y a aussi l'action, le fait de tirer au sort, et aussi le fait que chaque message parlé, ce qui est miraculeux, ça désigne le dibour, la parole. Donc on voit que le Goral lui-même, il représente à la perfection de la pensée, de la parole et de l'action. Là-dessus, le rabbi nous enseigne que quand on accomplit une mitzvah, on ne doit pas seulement l'accomplir au moyen de notre pensée, au moyen de notre parole, au moyen de nos actes, mais les trois à la fois. C'est ça la perfection, c'est ça la soumission la plus totale. La soumission la plus totale, c'est de faire vraiment don de soi, de faire mesirut nefesh et de faire bitul haratzon, d'annuler notre volonté par rapport à la volonté de Dieu. C'est précisément quand on accomplit chaque commandement divin au moyen de la parole, de la pensée et de l'action. Les trois réunis. On voit que quand on parle de l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire que quand on parle du départ de tout, de partir de l'essence divine, il va y avoir l'enchaînement des mondes. Ça veut dire une descente de la lumière divine à partir de l'essence de Dieu, jusque dans les mondes supérieurs, dans le monde d'Atzilut, puis dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, dans le monde d'Assia, jusque dans notre monde. On voit l'enchaînement des mondes, ce passage de l'essence divine à ce monde matériel. Cet enchaînement des mondes, il existe aussi à l'intérieur de l'homme. Il existe aussi puisqu'on voit l'importance de passer de la marshava, de la pensée, à la parole et à l'action. L'un succède l'autre. L'un est lié à l'autre. C'est pour cela que la force de Chochma, qui est la première séphira du monde d'Atzilut, qui représente le début du dévoilement de la lumière divine et de sa descente dans les mondes, cette séphira de Chochma, d'elle va découler la capacité de Chochma de l'âme de chaque juif. Et là-dessus, il y a un enseignement du Rabbi Rachab dont on a parlé la semaine dernière. On a expliqué que la force de Chochma, elle a eu deux mouvements. Un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas. Le mouvement vers le haut, ça représente la capacité de chaque juif, quand il étudie la Torah, de méditer de manière profonde, d'aller de profondeur à profondeur. Et là-dessus, le Rabbi Rachab a expliqué que ça s'appelle la Koah Hafshata, la force de déshabiller les mots de la Torah. C'est-à-dire que quand on regarde un texte chassidique, un discours chassidique du Rabbi, on peut lire des mots. Mais à l'intérieur de ces mots, on doit savoir qu'il y a une lumière divine, une lumière qui est abstraite, un intellect divin qui est insaisissable. Cette lumière divine abstraite et insaisissable qui représente toute la sainteté du discours chassidique d'un rabbi. Et cette lumière divine, elle va s'habiller dans des mots. Alors évidemment, celui qui s'attache à étudier de manière profonde les discours chassidiques du rabbi, il va parvenir à déshabiller les mots que le rabbi emploie, pour parvenir finalement au mec à Sechel, la profondeur de l'enseignement, la profondeur du concept divin que le rabbi nous enseigne et qu'il habille justement dans des mots. Cette profondeur-là, elle représente la merveille, en fait, puisque cette force-là de Chochma, ça s'appelle Koach Afla. Et Afla, ça désigne la merveille. Alors pourquoi, pour parler de Chochma, on emploie le terme de merveille, de merveilleux? Tout simplement parce que, justement, quand on s'approfondit, quand on médite, on attache notre esprit à l'esprit divin, quand on déshabille, comme on a dit, les lettres et les mots du discours hassidique du rabbi, alors on va, en déshabillant les lettres et les mots, on va découvrir une merveille. On va découvrir la profondeur de l'enseignement du rabbi, qui est abstraite, qui est divine, qui est insaisissable. Cette merveille-là, c'est celle-ci que le Talmid Chacham il recherche quand il s'attache à étudier le discours du Rabbi. Il va utiliser cette force de Chochma de s'élever vers le haut, de déshabiller les lettres et les mots pour découvrir la merveille du concept divin qui est l'objet de son étude. La seconde force de Chochma, c'est le contraire, c'est la force de faire descendre, et c'est Koach al-Basha, la force d'habiller. C'est-à-dire que l'esprit du Rav, le Rabbi, quand il médite un sujet, un concept divin, qui est au départ divin dans son esprit, donc qui touche l'abstraction, cette lumière qui est abstraite et infinie, il va l'habiller dans des mots, et c'est sa force à lui de faire descendre cette lumière divine qui est insaisissable, pour l'habiller dans des mots, pour le faire descendre dans un discours chassidique qui soit à la portée de chaque juif. Donc cette force-là de descendre, Koach al-Basha, elle dépend directement de la Koach afla. C'est-à-dire que plus le Rav, il a la capacité d'approfondir un concept divin et de toucher ce point divin, plus il aura la force de faire descendre cette merveille, comme on l'a dit, ce point divin, de le faire descendre dans ce monde matériel, dans des mots, dans des phrases, dans un discours chassidique. Donc on voit que l'un dépend de l'autre. Et c'est peut-être à ce sujet qu'on peut expliquer la déclaration du Machiar quand il a dit au Baal Shem Tov, « Je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur. » Parce que justement, le fait de faire, la capacité de faire descendre les sources à l'extérieur, c'est-à-dire de faire descendre des concepts divins au départ abstraits, puisque divin, de les faire répandre à l'extérieur, c'est-à-dire de les faire descendre dans ce monde matériel, de les mettre à la portée de chaque juif, c'est ça, répandre les sources à l'extérieur, ça dépend justement de la capacité du maître de s'élever vers le haut, de saisir la profondeur de l'enseignement divin. Parce que c'est ça le point important qui est donné par le Rabbi Rachab, c'est celui de dire que plus une personne elle est capable d'utiliser la force de Chochma, de s'élever vers le haut, de déshabiller les mots de la Torah pour en saisir le contenu profond, plus il va saisir le contenu profond, plus cette merveille-là, plus il va avoir la capacité de la faire descendre vers le bas, de l'enseigner à ses élèves, de l'enseigner même à un enfant. Donc on voit que faire répandre les sources à l'extérieur, ça dépend aussi, et ça dépend surtout du fait de s'élever vers le haut, de saisir la profondeur de chaque discours chassidique, de s'élever dans les mots eux-mêmes, de s'approfondir dans les mots, dans les lettres, dans les tagim même, des paroles de la Torah et de la profondeur de la Torah, de l'enseignement de la chassidoute, pour saisir justement ce niveau qui est abstrait et pour le faire descendre ensuite à l'extérieur et le mettre à la portée de tout le monde. Le point qui est donné par le Rabbi Rachab à ce sujet-là, c'est de dire que pour saisir justement ce point divin, le contenu profond d'un discours chassidique du Rabbi, qui est enseigné par un Rav, pour vraiment saisir ce point-là, l'élève il doit être Betzimtzum. C'est-à-dire qu'il doit contracter la force de compréhension qu'il possède. Il doit la focaliser, se concentrer de manière profonde sur la profondeur, pour saisir la profondeur de l'enseignement du Rav. Donc c'est ça, la qualité de Tzimtzum, de contraction. Comme un repli sur soi-même, comme un repli de l'esprit qui s'apprête à recevoir quelque chose. À l'exemple de la pupille, quand on voit que l'œil, quand il y a beaucoup de lumière, la lumière du soleil, il reçoit la lumière du soleil, alors l'œil il se rétrécit, la pupille se rétrécit. Donc on voit que ce tzimtzum-là, la rétraction, la contraction de la pupille, représente le tzimtzum. De la même façon, pour que l'élève reçoive l'enseignement du Rav, il doit contracter sa force de compréhension. Et même puisque cela, le Rabbi Rachab donne un exemple physique. Plus on va accumuler de la force, donc en se contractant soi-même avant de lancer un poids, par exemple, on voit que un sportif, il va se contracter, il va se replier sur lui-même, il va à ce moment-là accumuler de la force, et ensuite il va se détendre, il va lâcher son bras, et il va jeter le poids le plus loin possible. Donc on voit que la distance pour jeter le poids très loin, il doit vraiment se contracter lui-même. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Plus on veut faire descendre un concept divin, plus on doit s'élever vers le haut, plus on doit saisir sa profondeur. Donc quand on s'élève vers le haut, ça représente la contraction, le tzimtzum. Et quand on fait descendre ce concept vers le bas, ça représente finalement, ce sportif, il va jeter le poids pour le jeter très loin. Donc on voit que l'un dépend de l'autre. La force d'habiller un concept divin, elle va dépendre justement de la force de se concentrer, la force d'aller de profondeur en profondeur. Pourquoi on parle d'habiller un concept divin? C'est parce que justement cette lumière qui est abstraite, un grand maître, il va être capable de l'habiller dans un exemple, de le mettre à la portée de son élève. C'est l'opération inverse. On doit, d'une part d'abord, on doit, pour comprendre la profondeur, s'élever, c'est-à-dire on doit déshabiller les mots pour saisir la lumière que chaque lettre contient. Et quand on veut faire comprendre cette chose-là à un élève, on doit habiller justement cette lumière, ce concept abstrait, l'habiller dans un exemple, l'habiller dans une histoire, l'habiller dans quelque chose qui va être perçu par l'élève. Alors, tout cet enseignement du Rabbi Rachab, justement sur le Tzimtzum, sur cette capacité de se contracter, de se concentrer pour recevoir la profondeur de l'enseignement du Rav, pourquoi on a parlé de ça? C'est justement parce que le Rabbi, il nous explique, comme on l'a dit au début, il nous explique que dans notre situation actuelle, dans cette situation d'exil, on doit faire preuve de Mesirut Nefesh, de Bitul Haratzon, et on doit vraiment se consacrer vraiment de toutes nos forces, comme on l'a dit au sujet du Goral, consacrer toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes, dans le but de faire de son monde une demeure matérielle pour Dieu. Et c'est là que l'enseignement du Rabbi Rachab, il intervient ici, pour nous dire que justement, se préparer, même dans les choses qui nous semblent les plus futiles, les moins importantes, on doit se concentrer, on doit avoir cette attitude de Tzimtzum. Un chassid, quand il se tient devant le rabbi, il doit être dans cette situation de Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il doit se replier sur lui-même pour accumuler la force qu'il va recevoir du rabbi. Comme à l'exemple de la pupille qui reçoit de la lumière, plus la personne elle va se soumettre et être totalement annulée aux enseignements du rabbi, plus elle va être capable de saisir la profondeur de l'enseignement du rabbi, et surtout plus elle va être capable de la diffuser, de diffuser les sources de l'enseignement qu'il a reçu du rabbi à l'extérieur. Le Rabbi Rachab, il donne l'exemple de la lettre Kaf. On voit que la lettre Kaf, elle est telle qu'on l'écrit, elle est comme ça, elle représente le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'elle est repliée sur elle-même. Et ensuite, il y a aussi le Kaf Sofit qui est ouvert, qui est détendu vers le bas. Ça représente donc, comme on l'a dit, ces deux forces de la capacité de Chokhmah, la force justement de contraction et la force de répandre à l'extérieur. Donc cet enseignement-là du Rabbi, il est important aujourd'hui de comprendre justement, et on peut donner ici l'exemple, finir par l'histoire de la Mora Zaken. On raconte que quand il était justement à la table du Magid de Mezricht, il disait rien, il était très silencieux, il écoutait, il ne faisait qu'écouter. Et un jour, il avait l'habitude toujours de servir tous ses amis qui étaient assis aussi à la table du Magid de Mezricht. C'était le plus jeune et c'était celui qui rendait service au plus grand. Quand on l'envoyait chercher des courses, on l'envoyait chercher des choses dont chacun avait besoin, c'était lui qui était là pour servir les plus grands, c'était lui qui était là pour aider, et parce qu'il était le plus jeune justement. Et un jour, le Magid de Mezricht a donné un enseignement et les élèves qui étaient plus âgés, ils n'ont pas vraiment compris ce que le Magid avait dit. Et le Magid leur a dit, ils sont allés voir le Rabbi, et le Magid, ils lui ont demandé de leur expliquer à nouveau. Et le Magid leur a dit d'aller voir Zalmanou, Schneur Zalman, et de lui demander, parce que lui, il était capable de leur expliquer. À ce moment-là, les élèves étaient étonnés, ils se disent, comment le plus jeune d'entre nous, c'est lui qui va nous expliquer maintenant? Et ils sont allés le voir, ils lui ont demandé d'expliquer. Et là, à ce moment-là, l'Admor HaZaken, il était très gêné. Parce que d'un côté, il était obligé, puisque c'était la volonté du Maguid, d'expliquer au plus grand ce qu'il avait compris du discours chassidique du Maguid. Mais de l'autre côté, il hésitait, il voulait pas leur enseigner, parce que si il leur enseignait, alors il deviendrait leur maître. Et alors, à ce moment-là, les élèves, ils seraient gênés de lui demander par la suite de faire telle course ou de lui rendre tel service. Et comme lui, il voulait continuer à les servir, il avait du mal à prendre la place de maître. Donc on voit que chez l'Admor HaZaken, cette capacité qu'il a d'être maître, elle venait avant tout du fait qu'il était très silencieux, qu'il savait recevoir l'enseignement de son maître, et qu'il était capable de saisir la profondeur. Et c'est ça le point, on va finir là-dessus, c'est que quand le maître, il enseigne la profondeur, justement il enseigne un concept divin à son élève, et que l'élève, il est capable de recevoir cet enseignement, y recevoir toute sa profondeur, c'est parce qu'il va avoir une attitude de Tzimtzum. Une attitude où le Rav va se rendre compte qu'il est focalisé sur ce qu'il est en train de lui enseigner. Et c'est ça précisément qui va provoquer que le Rav, il va lui enseigner vraiment la profondeur de manière vraiment véritable. C'est réciproque, c'est-à-dire que plus l'élève il est Tzimtzum, plus l'élève il est prêt à recevoir l'enseignement du maître, plus le maître il est capable de recevoir et de donner à ce moment-là vraiment la profondeur de tout son enseignement. Et Bezrat Hashem, que cette attitude soit la nôtre vis-à-vis du maître de notre génération, et qu'on soit capable d'être vraiment dans cette attitude de Bitzimtzum, pour recevoir l'enseignement du Rabbi de manière profonde, mais vraiment recevoir toute la profondeur de l'enseignement du Rabbi, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom, Umevorach.